Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de service quotidien. C'est Hélène Denis qui vous accompagne en ce jeudi 26 octobre 2017. Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour, bonjour.
Ben c'est drôle, il est 10 heures, puis mon horloge m'indique qu'il est 4 heures.
Oui,
alors je m'en vais. Au revoir.
On a plein de problèmes aujourd'hui.
Oui, hein, je ne sais pas si ça a un rapport avec la panne d'électricité qu'on a eue en début de semaine. Est-ce que vous pensez?
On en a eu une durant la nuit.
Ah bon, une autre.
Oui, on aime la noirceur.
Je n'étais pas au courant.
Non?
Oh. Non. Je ne voulais pas faire de jeu de mots, mais...
Trop tard.
Bon. Alors sinon, ça va?
Oui,
on vous écoute dans les éphémérides.
Ça va très bien, merci. Alors, le 26 octobre, il n'y a pas de journée mondiale internationale. Donc, si vous avez une idée, écrivez-nous, puis ça va nous faire plaisir de la créer, en fait.
Hier, entre autres, c'était la journée internationale des pâtes, pasta day, et j'ai mangé un bon spaghetti.
C'est vrai.
Avec une sauce tomate maison. C'est extraordinaire.
Est-ce que les pâtes étaient faites maison?
Non.
Non.
Est-ce que vous faites des pâtes maison, vous?
Absolument pas.
Oh.
Absolument pas. Bon, 1825, le canal Erie entre le lac qui porte le même nom, donc le lac Erie et le bassin du fleuve Hudson est ouvert. Ça, c'était 1825, un 26 octobre. En 1850, dans l'article canadien, le passage du Nord-Ouest est découvert par l'équipe de Robert Lemesurier McClure. En 1905, signature du traité de séparation entre la Suède et la Norvège. En 1905, toujours à Saint-Pétersbourg, lors d'un bref soulèvement des ouvriers, forme le tout premier Soviet Conseil d'ouvriers, de paysans et de soldats. 1917, première publication des aventures de Félix le Chat en bande dessinée. 1965, la reine Élisabeth décore les Beatles de l'ordre de l'Empire britannique. En 1978, l'Organisation mondiale de la santé déclare que la variole a totalement disparu de la planète. 26 octobre 1987, l'accord constitutionnel du lac Meech passe aux communes par 242 voix contre 16. Il sera rejeté en juin 1990. 1992, défaite par référendum de l'accord de Charlottetown, le non l'emporte dans 6 provinces. Donc, Terre-Neuve, l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick votent oui, avec de bonnes majorités, l'Ontario par une très faible marge. En 1997, à Jerez, en Espagne, Jacques Villeneuve devient le premier pilote canadien champion de F1. J'ai de la misère avec mes consonnes aujourd'hui. Après, parce que je réprime une toux.
Donc... Il y a un effet comique ici.
Oui, d'accord, je suis content de vous faire sourire. En 2001, George W. Bush signe le Patriot Act. Et en 2009, une vaste campagne de vaccination pour contrer la grippe qu'on avait surmonnée. Surmonnée. Je pense que je viens d'inventer. J'aime beaucoup ce terme-là. Surmonnée, non, surnommée, la grippe code postal H1N1 s'amorce au Québec.
On aurait pu sermonner la grippe parce qu'on ne la veut pas.
ça va être beau. Ah, la naissance, j'en ai noté une, entre autres, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton est née en 1947. Et pour ce qui est des décès, John Kinder Labatt, l'homme d'affaires et brasseur canadien d'origine irlandaise, est décédé, un 26 octobre.
Hillary Clinton, qui était de passage à Montréal pour une conférence, qui célèbre donc ses 70 ans aujourd'hui.
Exact.
Merci beaucoup, Mathieu.
Avec plaisir.
À la une de la presse, arrestation de Guy Ouellet, les dessous de l'enquête. Le député libéral Guy Ouellet a été arrêté hier dans le cadre d'une enquête sur la fuite de documents confidentiels portant sur Jean Charest et l'ex-collecteur de fonds libéral Marc Bibeau. La presse a reconstitué cette opération secrète menée par 6 corps policiers qui laissent bien des questions en suspens. La chronique d'Yves Boisvert s'intitule « On n'a pas besoin de ça ». Et la chronique de Marie-Claude Lortie, « Pub, sexe et inconduite ». Et nouvelle de dernière heure, on a appris que Guy Ouellet se retirait du caucus libéral. Philippe Couillard s'est dit surpris, étonné, frappé par la nouvelle de l'arrestation du député libéral Guy Ouellet jeudi matin. Alors, l'arrestation de Guy Ouellet s'est faite hier, mais les propos ont été recueillis ce matin concernant la surprise exprimée par M. Couillard. Alors, la chronique maintenant d'Yves Boisvert, intitulée « On n'a pas besoin de ça ». Il y a des semaines où ça fait plus mal, des semaines où tu dis à des femmes « Oui, tu peux avoir confiance en la justice criminelle. Oui, ce sera un combat, ce sera dur. On n'envoie pas les gens en prison sans être certains qu'ils sont coupables et c'est bien ainsi. » Ça veut dire qu'ils vont tester ce que tu dis. Mais les temps ont changé. La police a des escouades spécialisées. Ces gens-là sont bien formés. Ils connaissent tous les pièges qui attendent les victimes, les juges aussi. D'abord, c'est presque la parité homme-femme. Ils sont sensibilisés, oublient les cas précambriens qui font surface de temps en temps. Je te dis, les temps ont changé. Si tu choisis de porter plainte, tu auras devant toi des professionnels, pas des juges qui mesurent la longueur des mini-jupes. Ce sera dur, mais ce sera fait correctement. Et le mardi matin, tu vois apparaître dans le Journal de Montréal ce que le juge Jean-Paul Brown a dit dans une affaire d'agression sexuelle. Et merde, pas encore. Quel mauvais travail, quel mauvais message. Ça ne me fait pas changer d'idée sur la majorité des gens dans ce système. C'est juste qu'on a le droit de me dire aujourd'hui « Ah oui, hein, il a bien changé ce système, point de suspension. » J'ai écouté hier ce qu'a dit le juge Brown au mois de mai dans cette affaire d'agression sexuelle mineure. Une adolescente de 17 ans décide de prendre un taxi à la dernière minute pour rentrer chez elle car il pleut en sortant d'un subway. Le chauffeur de 49 ans lui dit qu'elle est belle, qu'elle sent bon. Elle lui renvoie le compliment. Ils échangent leur numéro de téléphone. D'après elle, c'est parce qu'elle avait peur de ce qui pourrait arriver, sinon. Il recule son siège, lui prend le menton et l'embrasse. Ensuite, il lui prend les seins. Ça s'arrête là. Le juge Brown a entendu la preuve. On se retrouve à la fin du procès et comme il le fait souvent, c'est une manie chez lui. Il commence à penser à voix haute. Il dialogue avec la procureure de la poursuite. On voit qu'il essaie de se faire une idée. Est-ce que c'est vraiment sexuel d'embrasser quelqu'un? Est-ce que ça prend un consentement exprès pour s'embrasser, demande-t-il? La réponse est oui dans ce contexte clairement de séduction. La Cour suprême l'a dit. Mais c'est pas clair pour moi la question du baiser, dit-il. La procureure de la poursuite est manifestement décontenancée et dit que ces hypothèses ne ressortent pas de la preuve. La plaignante a bien dit qu'elle ne voulait pas de ce baiser, qu'elle a eu peur, qu'elle a figé. Le juge ensuite reconnaît que l'accusé est allé trop loin après le baiser, quand il lui a touché les seins. Mais il a comme un doute. Elle vient d'une famille très stricte, elle n'est jamais sortie avec un garçon. Aussi, on peut le dire qu'elle a un peu de surpoids, mais qu'elle a un joli visage. Et alors? Et puis cette ambiguïté, ce « toi aussi, tu sens bon ». C'est peut-être la première fois qu'un homme s'intéresse à elle. Où s'en va-t-il avec ça? Où s'en va le juge Brown? Il s'en va finalement vers un verdict de culpabilité. Ce n'est donc pas un de ces cas de juges qui ont absous un accusé en se fondant sur des préjugés. C'est un cas où un juge expose à voix haute ses préjugés, ou du moins des hypothèses totalement inventées sur les sentiments de la plaignante, des choses qu'elle n'a pas formulées. Elle est quand même un peu flattée qu'un homme s'intéresse à elle, mais elle ne veut pas que ça se passe trop vite. Elle donne son numéro de téléphone, elle est fleur bleue. Mais à la fin, il dit « coupable ». Où est la faute alors? La faute est dans la manière de faire. Un juge, comme n'importe qui, peut se poser 1000 questions en entendant une preuve. Mais de un, il n'a pas le droit de se substituer au témoignage d'une victime pour lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit. Et de deux, la cour n'est pas un salon où l'on cause au coin du feu. D'un coup, elle voulait. Non, mais tu sais, elle est grassouillette et le gars, faut se le dire, il est beau bonhomme. Elle le croyait bien plus jeune. Tout ça, tout ce bavardage et ces suppositions fondées sur l'imagination sentimentale du juge, tout ça qui est infiniment humain par ailleurs et très normal intellectuellement, tout ça n'a pas sa place dans une salle d'audience, Tout ça est un manque total de jugement. C'est donc en partie la chronique d'Yves Boisvert intitulée « On n'a pas besoin de ça ». En congé de maladie, la présidente sera temporairement remplacée. Le gouvernement Couillard nommera un président par intérim à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en raison du départ en congé de maladie de Tamara Termitus, a appris la presse de sources sûres. Madame Termitus sera absente au moins jusqu'au 14 novembre, soit environ 3 semaines. Nommée en février dernier par l'Assemblée nationale, la présidente est au centre d'une crise interne depuis plusieurs mois. La CDPD, donc la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, se retrouve maintenant encore plus fragilisée. Sur les 15 postes de direction figurant sur l'organigramme, on compte 8 chaises vides. Certains cadres sont en congé de maladie prolongée, tandis que d'autres dirigeants sont partis et n'ont jamais été remplacés. Le gouvernement fait face à un casse-tête pour remplacer temporairement Mme Termitus. Normalement, l'un des deux vice-présidents hérite du poste. Or, Camille Picard revient lui-même d'un congé de maladie. Québec se demande donc si M. Picard constitue le meilleur choix pour prendre la relève. Joué au téléphone, le principal intéressé s'est dit parfaitement apte et disposé à exercer l'intérim. Le deuxième poste de vice-président est vacant depuis un an. Tamara Termitus est visée par une enquête du protecteur du citoyen à la suite de dépôts de plaintes pour abus d'autorité, mauvaise gestion et manque de respect envers le personnel. La maladie de Lyme a encore gagné du terrain au Québec. Depuis janvier, le ministère de la Santé et des Services sociaux a recensé 259 cas, soit 80 cas de plus que l'année dernière. Et l'année 2017 n'est pas terminée. Parmi les 259 Québécois qui ont contracté la maladie cette année, 184 l'ont acquise ici même au Québec, selon le plus récent bilan partiel du ministère de la Santé et des Services sociaux publié ce mois-ci sur son site Internet. Cette maladie, jadis considérée comme rare, n'a pas fini de progresser, avertit le docteur Alejandra Iratse-Sima, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec. La région de l'Estrie est toujours et de loin la plus touchée par la maladie. 119 personnes l'ont contractée dans cette région, suivie par la Montérégie, 80 personnes atteintes, dont 46 qui l'ont contractée dans la région. Dans 70 à 80 % des cas, les gens présentent une rougeur de la peau qui dépasse 5 cm après quelques jours, généralement à l'endroit de la piqûre. D'autres symptômes comme de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête, une raideur à la nuque et des douleurs musculaires et articulaires peuvent s'ajouter. Si la tique reste accrochée moins de 24 heures, le risque de transmission est faible. La maladie se soigne avec des antibiotiques. Non traitée, elle peut causer des lésions articulaires, cardiaques et neurologiques dans les semaines, voire les années qui suivent l'infection. Des cyclistes et des proches de Clément Ouimette se sont rassemblés tôt hier matin sur la voie Camillien-Houde pour commémorer la mort du jeune homme survenu au début du mois d'octobre. Son vélo peint en blanc, le vélo fantôme, a été accroché sur le lieu exact de l'accident. Clément Ouimette a été tué après qu'un automobiliste eut fait demi-tour, manœuvre pourtant interdite dans la côte. Pour nous, c'était nécessaire. C'était extrêmement important de poser un geste en tant que cycliste et ami, a affirmé Gabrielle Anctil, organisatrice de l'événement. Quelques dizaines de personnes ont assisté à la cérémonie. Nous sommes ici au cœur du magnifique parc du Mont-Royal, a-t-elle continué. Il est impensable que l'on puisse y mourir. Comment se fait-il qu'on accepte qu'il soit traversé par une route aux allures d'autoroute?
On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va. Et la vie. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense un Dieu. Sitôt on reçoit une croix. Car la vie est si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile, dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie. Car la vie.
Luc de la Rochelière et sa merveilleuse chanson Si fragile.
En une du Devoir de ce 26 octobre, enquête mâchurée, le député libéral Guy Ouellet arrêté. L'arrestation de l'ancien policier pourrait être liée aux fuites sur l'enquête portant entre autres sur l'ancien premier ministre Jean Charest. Racisme des organismes partenaires claque la porte. Le désaccord avec Québec porte sur la nouvelle orientation donnée à la consultation. Livre, chronique d'un siècle de crimes organisés, André Sidilo et André Noël immortalisent les mafieux québécois. Les journalistes retraités qu'on voit en photo publient un ouvrage illustré sur le crime organisé à Montréal. La banquise est plus mince qu'estimée. La salinité de la neige fausserait le calcul effectué par les satellites européens. La loi sur la neutralité religieuse fait débat. Ottawa pourrait contester la législation québécoise. Le voile porté en classe? Oui, non, ça dépend. Et Fats Domino, précurseur du rock, n'est plus. Le député libéral et ex-policier à la Sûreté du Québec, Guy Ouellet, a été arrêté mercredi par l'Unité permanente anticorruption, UPAC. Il ne fait face à aucune accusation pour l'instant. L'arrestation de Guy Ouellet pourrait être liée aux fuites de documents dans l'enquête Machuré, une vaste opération de l'UPAC qui se penche sur le financement politique et l'octroi de contrats publics et vise entre autres l'ex-premier ministre Jean Charest et l'ex-argentier libéral Marc Bibeault. Cette enquête a fait l'objet de nombreuses fuites dans les médias, si bien que l'UPAC a déclenché en avril une enquête interne afin de déterminer l'origine de la transmission de documents confidentiels qui a permis la diffusion publique de certains éléments d'une enquête criminelle active. L'arrestation de Guy Ouellet a créé une onde de choc sur la colline parlementaire et même au-delà. En milieu de soirée, le premier ministre Philippe Couillard a annoncé qu'il suspendait sa tournée dans le nord du Québec pour être présent au caucus de son parti ce jeudi afin de trancher sur le sort de Guy Ouellet. Et on a appris ce matin que Guy Ouellet quittait le caucus. Coup dur pour le forum qui remplace la consultation sur le racisme systémique. Plusieurs des 31 groupes communautaires devant mener des consultations locales dans diverses régions du Québec ont décidé de se retirer du processus ou envisagent de le faire, a appris Le Devoir. Ces organisations à but non lucratif dénoncent le changement de cap de la consultation devenue un forum sur la valorisation de la diversité et l'emploi. Même si aucune entente n'a été signée jusqu'ici, rien n'a changé. Assure donc le ministère. Ces jours-ci, il envoie aux différents organismes une lettre leur enjoignant de poursuivre comme prévu, mais ne fait toutefois pas mention des nouveaux thèmes dévoilés par le nouveau ministre David Hurtel. L'échéancier, lui, change car les rapports devront être rendus pour le 15 décembre, moment auquel le ministre souhaite tenir son forum. Sur les 31 organisations contactées, près des deux tiers, 20, ont répondu au devoir. Au total, 3 se retirent, 5 envisagent de le faire, mais doivent faire approuver la décision par leur conseil d'administration, et 12 ont décidé de continuer, non sans exprimer plusieurs réserves. Pardon. Certains organismes applaudissent l'idée de recentrer le dialogue sur les défis de l'intégration sur le marché du travail, sujet fétiche du ministre Hurtel. C'est le cas de la Ligue des Noirs qui souhaite aborder ces questions et du regroupement interculturel de Drummondville, qui avait même axé ses consultations sur les thèmes de l'emploi et de la diversité. Le Tremplin de Lévis a confirmé qu'il sera de la partie, de même que le Centre Lavalois pour l'intégration et la cohésion sociale, CLIC, qui juge qu'il n'est pas judicieux d'engager un bras de fer avec le gouvernement. Le projet de loi visant à imposer le bilinguisme aux futurs juges de la Cour suprême a été défait mercredi soir à la Chambre des communes, mais 17 députés libéraux, dont 11 du Québec, ont rompu les rangs et ont appuyé l'initiative néo-démocrate au nom de leurs principes. Le projet de loi a été défait, 65 députés l'ayant appuyé et 224 s'y étant opposés. Les néo-démocrates présents ont voté pour, mais 14 d'entre eux, sur un total de 44, manquaient à l'appel, dont 4 qui étaient pourtant présents au vote précédent. Tous les bloquistes présents ont voté pour, tandis qu'une vaste majorité de libéraux et de conservateurs, dont 6 Québécois, ont voté contre. Le projet de loi stipulait que toute personne nommée au plus haut tribunal du pays doit comprendre le français et l'anglais, sans l'aide d'un interprète. « Je crois que les interprètes de la Cour font parfois des traductions erronées », a dit Anthony Housefather, député libéral de Mont-Royal. La population autochtone en progression rapide. L'enquête de Statistique Canada chiffre à quelque 1,67 million le nombre d'Autochtones au pays. La croissance démographique confirmée dans ce recensement s'explique par des facteurs naturels, taux de fécondité élevé, hausse de l'espérance de vie, mais aussi parce que les Autochtones sont plus nombreux à s'identifier ainsi dans les formulaires d'année en année. Plus de 70 langues autochtones, dont 36 comptent au moins 500 locuteurs, ont été déclarées au recensement de 2016. Les langues algonquiennes constituaient la famille linguistique autochtone comptant le plus grand nombre de locuteurs au pays en 2016, celles les plus fréquemment déclarées étant le cri, l'ojibwé, l'ojikri et le montagnais, inou entre parenthèses. La région de Montréal est au 7e rang à l'échelle nationale avec une population autochtone chiffrée à 34 750 personnes. Vous écoutez les Voix de service quotidien, c'est Hélène Denis qui vous accompagne. À venir à l'émission, une belle et longue chanson, souvenir de Charles Aznavour et aussi la revue de presse du Journal de Montréal.
De la boîte à la mode, aux lueurs psychédéliques, aux curieux décors, nous découvrons assis sur des chaises incommodes les derniers disques pop poussés au maximum. C'est là qu'on s'est connus parmi ceux de notre âge. Toi vêtu en indienne et moi en col mao. Nous revenons depuis comme en pèlerinage, danser dans la fumée, à couper au couteau. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Mon cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue. Viens. Noyés dans la cohue, mais dissociés du bruit, comme si sur la terre il n'y avait que nous, glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, joue contre joue. Piscando.
pays, c'est un spectacle rare. Les danseurs sont en transe et la musique est dans. Ils semblent sacrifiés à des rites barbares sur des airs d'aujourd'hui, souvent vieux de tout temps. L'un à l'autre étrange et bien que dansant ensemble, les couples se démêlent, on dirait que pour eux. La musique et l'amour ne font pas corps ensemble. Dans cette obscurité propice aux amoureux, viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Ton cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue. Viens, noyé dans la cohue, mais dissocié du bruit. Comme si sur la terre, il n'y avait que nous. Glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue.
Serre-toi encore plus fort. T'occupe pas des autres. On est bien comme ça, la joue contre ma joue. Tu te souviens? Ça fait un drôle d'effet tout de même. On a l'impression de danser comme nos parents. Dans le fond, ils avaient peut-être pas tout à fait tort. Les époques changent. L'amour reste. Allez, dansons. Joue contre joue. Non, 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 non,
Charles Aznavour et sa chanson « Les plaisirs démodés ».
Une chanson qui ne se démode pas. Merci, Mathieu. En une du Journal de Montréal, Guy Ouellet arrêté, mais pourquoi? Les rumeurs les plus folles circulaient hier alors que l'UPAC n'avait toujours pas dévoilé la raison de cette arrestation qui a créé une onde de choc à l'Assemblée nationale. Les 100 meilleurs joueurs du Canadien de Montréal, ce livre dit qui ils sont, dans quel ordre et pourquoi. Alors on voit les photos de Maurice Richard, Guy Lafleur, Patrick Roy et Carey Price. J'aurais pensé être sixième ou septième, dit Yvan Cournoyer à la blague en constatant sa dixième position des meilleurs joueurs de l'histoire du Canadien. Un palmarès qui soulève les passions et lance le débat. Les éditions du Journal de Montréal proposent le livre des 100 meilleurs joueurs du Canadien, fruit d'un travail de moine de la dernière année et d'un long brassage d'émotions. Pour l'occasion, certains de ces grands patineurs du bleu-blanc-rouge, Yvan Cournoyer, Yvon Lambert et Rick Green, ont assisté au lancement. Ils ont pu revivre des émotions fortes de leur carrière en feuilletant des passages de la plume des confrères journalistes sportifs tout en visionnant une multitude de photos. Dans cet ouvrage de 327 pages, le lecteur apprendra anecdotes, histoires et faits historiques des plus grands joueurs qui ont marqué les 108 ans du Canadien. Selon les statistiques compilées par l'un des auteurs, Marc Defoy, les 100 joueurs accumulent 313 conquêtes de la Coupe Stanley et 42 d'entre eux sont immortalisés au temple de la renommée du hockey. Certains choix étaient plus évidents, mais d'autres étaient très déchirants. Bien qu'ils ne remettent pas en doute la suprématie de Maurice Richard, qui occupe le premier rang, Yvon Lambert aurait opté pour Jean Béliveau. Le choix est tellement difficile. Je comprends que Maurice a marqué le peuple à justifier celui qui est répertorié au 67e rang. Aucun autre joueur n'a provoqué d'émeute. Ce classement fera jaser, c'est évident, enchaîné le grand ailier ayant gagné 5 Coupes Stanley. Je suis fier d'avoir joué pour le Canadien. J'ai côtoyé les grands et l'organisation et je suis honoré d'être parmi les 100 meilleurs. C'est toujours intriguant de savoir où l'on peut se trouver. La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, déposera une plainte au Conseil de la magistrature à la suite des propos révoltants d'un juge sur le physique d'une victime lors d'un procès criminel pour agression sexuelle. On peut le dire qu'elle a un peu de surpoids, mais elle a un joli visage, hein? A lancé le juge Jean-Paul Brown lors du procès d'un chauffeur de taxi accusé d'avoir agressé sexuellement une ado de 17 ans dans son véhicule, a révélé le journal. Pour le juge, la jeune femme était même un peu flattée, car c'est peut-être la première fois qu'il s'intéresse à elle. Ce n'est pas le même consentement pour embrasser quelqu'un et le consentement pour lui mettre, comme on dit, la main au panier, a ajouté M. Brown. Stéphanie Vallée, qui ne s'est pas arrêtée pour parler aux médias, a tout de même laissé tomber que ses propos étaient inacceptables et qu'elle déposerait une plainte au Conseil de la magistrature. En pleine vague de dénonciations d'agressions sexuelles, la critique en justice, Véronique Yvon, craint les effets des propos du juge sur la crédibilité du système judiciaire. L'UPAC épingle Ouellet. Le député libéral a été arrêté et perquisitionné hier pour des raisons nébuleuses. Même s'il est pour le moins rarissime qu'un député en fonction se fasse arrêter, l'unité permanente anticorruption a été avare de commentaires. Guy Ouellet est député de Chomédé à Laval depuis 2007. Il a également fait carrière à Sûreté du Québec où il a fait sa marque en tant qu'enquêteur vedette spécialisé dans la lutte aux motards. Pourquoi a-t-il été arrêté? Officiellement, l'UPAC a refusé d'établir un lien entre cette arrestation et les fuites d'informations concernant l'enquête Machuret. Selon nos sources, ces perquisitions sont reliées aux informations que notre bureau d'enquête a révélées au printemps concernant l'enquête Machuret sur Jean Charest et le collecteur de fonds Marc Bibeau. Ancien enquêteur à l'UPAC, M. Despatie avait été congédié en octobre 2016 car il avait encouragé une personne à dénoncer des irrégularités dans les médias selon ce qu'avait rapporté la presse à l'époque. M. Despatie, c'est Richard Despatie. En mai dernier, Robert Lafrenière avait déclaré devant Guy Ouellet, qui présidait une commission parlementaire, qu'il souhaitait ardemment trouver le bandit qui était à l'origine de la fuite médiatique entourant l'enquête Machuret. Une enquête administrative pilotée par deux policiers retraités avait été instituée. M. Ouellet et le grand patron de l'UPAC, Robert Lafrenière, sont, selon plusieurs sources, comme chien et chat. Le député a déjà été interrogé par l'UPAC dans le cadre de l'enquête Machuret. Qui est Guy Ouellet, natif de Sherbrooke, âgé de 65 ans, père de 4 enfants, élu pour la première fois en 2007 dans Chomédé, dans la région de Laval, sous la bannière du Parti libéral du Québec. Réélu en 2008, 2012 et 2014 avec d'écrasantes majorités. Président de la Commission des institutions depuis le 15 septembre 2015. Ex-policier de la Sûreté du Québec spécialisé dans la fuite contre les bandes de motards criminalisées. Guy Ouellet a quitté le caucus libéral, c'est ce qu'on a appris ce matin. Et pour terminer avec un propos un peu plus léger, les Italiens sont les plus... Ben, léger, c'est une façon de parler. Les Italiens sont les plus gros consommateurs de pâtes au monde, avec 23,5 kg dévorés par personne et par an, soulignait hier le principal syndicat d'agriculteurs du pays à l'occasion du Pasta Day. La 19e édition du Pasta Day, qui se tenait hier dans le monde, a pour centre névralgique cette année São Paulo, au Brésil, et pour thème « Un plat de pâtes pour nourrir la planète ». Selon l'Organisation internationale des pâtes, IPO, de 1997 à 2016, la production de pâtes a augmenté de 57 % passant de 9,1 à 14,3 millions de tonnes. Avec 3,2 millions de tonnes par an, l'Italie produit près d'un plat de pâtes sur quatre consommé dans le monde et reste devant les États-Unis, la Turquie et le Brésil. Côté consommation, avec ses 23,5 kg par an, les Italiens sont toujours largement en tête devant les Tunisiens et le Venezuela, tandis que les habitants du Salvador, les plus petits consommateurs, sont contents d'un kilo par an, selon des chiffres de l'Union des associations de fabricants de pâtes alimentaires de l'Union européenne. D'après la Coldiretti, 20 % des familles italiennes préparent encore les pâtes à la maison, une tendance favorisée par les émissions de cuisine et sites Internet dédiés.
Quand j'entends cette chanson-là sur les ondes, du bout du monde, je téléphone à ma blonde, juste pour le fun de l'entendre me répondre. Je t'aime plus fort que la fin du monde. Quand j'entends cette chanson-là sur les ondes de ma FM, je téléphone à ma femme. Ça sonne, elle me répond dans la seconde. Ma femme, c'est la même que ma blonde.
C'est banal, un peu fleurbleu, pas très original.
Mais je l'aime plus fort que je l'ai jamais aimé. Quand j'entends cette chanson-là sur les ondes, du monde, je téléphone à ma blonde. Bébé maîtresse, amie de cœur, James Bond girl, ça me fait du monde dans la même blonde. Quand j'entends cette chanson-là sur les ondes de ma FM, je téléphone à ma femme pour lui offrir ce collier de seconde. Deux noirs, une blanche, deux blanches, une ronde.
C'est banal, un peu fleur bleue, pas très original.
Mais je l'aime plus fort que je l'ai jamais aimé.
Pierre Charlebois et sa chanson « Les ondes ».
Fats Domino, le précurseur du rock, n'est plus, c'est un texte d'Odile Tremblay dans Le Devoir d'aujourd'hui. En visitant le Ninth Ward, longtemps quartier des musiciens noirs de la Nouvelle-Orléans, on peut voir l'ancienne demeure rose et blanc de Fats Domino qu'il avait refusé de quitter en 2005 quand la ville fut ravagée par l'ouragan Katrina. Rescapé avec sa famille et 200 sinistrés par un bateau de la police portuaire, la légende veut qu'envoyé dans un hôpital du Texas et enregistré sous son vrai nom, Antoine Dominique Domino Jr., laissé à son sort, il ait été reconnu sur sa civière par un infirmier fan éperdu. Ne seriez-vous pas Fats Domino? Concert de cris de joie. Plusieurs le croyaient englouti, disparu. Des médias avaient annoncé sa mort. Ressuscité. Alléluia! Le voici depuis mercredi, bel et bien envolé à 89 ans, Fats Domino, immense musicien de rhythm and blues, noir et rond, reconnu pour son grand sourire, formé au blues et au boogie-woogie. Pianiste virtuose, un temps englouti par l'alcool et la vie de noces, considéré par plusieurs sinon comme le vrai créateur du rock, du moins comme son indéniable précurseur. En 2006, Fats Domino signait son dernier disque, Alive and Kickin', pour aider les musiciens amateurs de la Nouvelle-Orléans si éprouvés par Katrina, en versant ses profits à la Tipitinas Foundation, mais il avait quitté son Ninth Ward si bousillé, au profit d'un quartier périphérique de la Nouvelle-Orléans, de l'autre côté du Mississippi, pour y vivre jusqu'à son décès. On réécoute à son hommage ses immortelles chansons « Walking to New Orleans » et « Ain't a Shame » comme son grand succès « Blueberry Hill » dont il fut le plus inoubliable des interprètes. Avant Jerry Lee Lewis, Fats Domino aura donné au piano ses lettres de noblesse au sein de l'orchestre rock. En 1950, sa chanson de rhythm and blues « Fat Man », variation de « Junker Blues » coécrite avec Dave Bartholomew, triomphale à la frontière de plusieurs genres et considéré comme un des premiers rock'n'roll. Chuck Berry lui reconnut son berceau d'influence, tout comme Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Ray Charles, les Stones, John Lennon et Paul McCartney, tant d'autres. Fats Domino aura nourri par ailleurs de ses accords et de sa voix une centaine de bandes sonores de films et de séries, dont 12 Monkeys de Terry Gilliam en 1995 et Blues Brothers de John Landis en 1980. Il était devenu en 1998 le premier musicien purement rock à recevoir la Médaille nationale pour les arts, mais sa santé l'a empêché de se rendre à Washington, l'accueillir des mains du président Bill Clinton. Naître en 1928 à la Nouvelle-Orléans, grandir dans une plantation de canne à sucre hantée par le passé d'esclavage, où ses parents gagnaient leur vie sous le joug, s'est porté sur son dos l'histoire de la Louisiane et du Vieux Sud. D'autant plus qu'issu d'une famille créole catholique, sa langue d'origine était le français et son surnom, petit frère, mais l'anglais prit rapidement le dessus au foyer alors que l'influence du français déclinait en Louisiane. Le jazz né dans leur ville, ses parents l'écoutaient sur un gramophone à moitié fini. Le gospel, il l'avait chanté à l'église. Que Fats Domino ait appris à 10 ans le piano sur un instrument tout rouillé en se pratiquant du matin au soir, qu'il ait abandonné les études un an plus tard pour devenir manufacturier, puis dès l'âge de 14 ans, musicien de club, appartient à la petite histoire d'une révolution musicale née sur le terreau de la misère et de la résilience des Afro-Américains. Un temps aux côtés du groupe de Billy Diamond, il allait percer à 21 ans en signant à Los Angeles un contrat avec Imperial Records. Ses premières tournées dans le sud des États-Unis se faisaient sous le signe de la ségrégation et des vexations. Quelques Blancs s'aventuraient au balcon assis loin des Noirs, mais l'oreille tendue. En 1956, invité au Ed Sullivan Show, Fats Domino dut laisser ses musiciens cachés derrière un rideau pour ne pas multiplier le nombre de visages noirs sur scène. Sur ces lits honteux naît parfois la gloire du monde. longtemps roi de la tournée américaine et européenne, après avoir fait danser la génération des jukebox en 1986, Fats Domino entra au panthéon des 10 grands artistes du rock and roll, aux côtés d'Elvis, de Chuck Berry, de Little Richard et compagnie. L'année suivante, il recevait un Grammy Award pour l'ensemble de sa carrière. Un mythe à l'immense talent aura ainsi vécu sur les montagnes russes de l'histoire, emportant la mémoire du meilleur et du pire avec lui. Au revoir et merci, Fats Domino.
Alors, c'était Fats Domino et sa chanson, devinez-vous quoi? Devinez quoi? La la!
Merci! Des cafés pour l'histoire de Montréal. Les cafés touchés, torréfiés à Montréal, profitent du 375e anniversaire de la métropole pour lancer de nouveaux mélanges et pour renommer leurs produits en l'honneur de l'histoire de la ville. Les 5 cafés des gammes classiques et biologiques portent une date significative dans l'histoire de Montréal. 1967, l'Expo. 1969, Bed-In de John Lennon et Yoko Ono. 1976, Jeux olympiques. 1980, coup d'envoi du Festival de jazz. Et 2006, nomination de Montréal comme ville UNESCO de design. Toujours en alimentation, dans la section pause de la presse, 57 % de ce que l'on boit et mange est québécois. Le Québec mange majoritairement québécois. La valeur de l'ensemble des produits alimentaires et boissons de tout type vendus sur le territoire de la province a atteint 42,8 milliards en 2016, selon le MAPAC. Plus de la moitié, 57 % était du contenu québécois. Cela ne veut pas dire que tout ce qu'on consomme pousse ici. Cette part québécoise comprend 26 % d'intrants intermédiaires locaux, ingrédients notamment, et 31 % de valeur ajoutée, travail et capital nécessaires pour produire les aliments dans la province. C'est un texte de Marie Allard, source « Le contenu québécois des produits alimentaires » vendu au Québec, Bioclip, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, MAPAC.
circonstances. Dis-moi, 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 à qui la chance, en dépit des circonstances. Ah, les amitiés, meurent lorsqu'on est tanné.
Jason Bajada et sa chanson Pékin.
Actualité internationale, deux jeunes hommes ont été abattus mardi soir par un tireur qui n'avait toujours pas été arrêté hier matin sur le campus d'une université de Louisiane dans le sud des États-Unis, ont annoncé les autorités. La fusillade a eu lieu vers minuit devant un dortoir de la Grambling State University dans le nord de l'État. Les deux victimes ont été identifiées, a indiqué l'université Earl Andrews, un étudiant de 23 ans, et son ami Monkey Arius Caldwell, également âgé de 23 ans et qui n'étudiait pas à cette université. Selon plusieurs médias, la fusillade a eu lieu après une altercation dans l'un des dortoirs. Les cours ont repris normalement hier. Londres, un cabinet d'avocats basé aux Bermudes a indiqué s'attendre à voir publier des informations financières pouvant concerner certaines des personnes les plus riches de la planète après un incident informatique compromettant la sécurité de ces données. Appleby, qui se présente comme l'un des plus grands cabinets d'avocats offshore, dit dans un communiqué mis en ligne mardi avoir récemment reçu des demandes de renseignements du Consortium international des journalistes d'investigation à l'origine du scandale des Panama Papers. Prenant les devants, le cabinet réfute l'existence d'actes répréhensibles et assure que toute allégation en ce sens serait infondée et basée sur un manque de compréhension des structures légales utilisées dans le secteur offshore. Mille bouteilles de bière se sont retrouvées éparpillées sur la chaussée d'une autoroute allemande après l'accident du camion qui les transportait, bloquant complètement pendant plusieurs heures hier matin cet axe routier. Après avoir été percuté par une automobiliste qui avait perdu le contrôle de sa voiture, le poids lourd a lui-même heurté la barrière de sécurité centrale de l'autoroute 45 en S, qui y répandant alors son chargement, selon la police locale. Après plusieurs heures d'interruption, le trafic a pu reprendre avec la réouverture de l'une des deux voies. Une actrice norvégienne a affirmé hier avoir été violée par Harvey Weinstein en 2008 à Londres, mais n'a pas encore décidé si elle allait porter plainte contre le producteur. L'actrice Natasha Malte, âgée de 43 ans, a raconté lors d'une conférence de presse à New York avoir rencontré le magnat hollywoodien à la soirée de clôture des BAFTA, les récompenses britanniques du cinéma. Harvey Weinstein se serait présenté à la porte de sa chambre d'hôtel. Alors qu'il tambourinait en criant, elle lui aurait ouvert. Après qu'elle a refusé ses avances, le producteur se serait couché sur elle et l'aurait violée, a-t-elle expliqué. Pékin, c'était une simple formalité pour celui qui pourrait désormais se maintenir indéfiniment au pouvoir, Xi Jinping a obtenu hier un nouveau mandat à la tête du Parti communiste chinois, le PCC, entouré d'une équipe dirigeante sans dauphin présumé pour lui faire de l'ombre. Conformément à la tradition, Xi Jinping est apparu souriant devant la presse, entouré de ses 6 collègues du nouveau conclave qui va diriger la Chine pendant 5 ans, au lendemain de la clôture du congrès quinquennal du PCC. « Je prends ma réélection non seulement comme une approbation envers mon travail, mais aussi comme un encouragement qui me poussera à aller de l'avant », a-t-il promis lors d'une allocution retransmise en direct à la télévision. Le comité central, sorte de parlement du PCC, l'a élu à 8 clos secrétaire général, aux côtés de 6 autres membres permanents du bureau politique, l'instance qui détient la réalité du pouvoir en Chine. Un tribunal d'Istanbul a ordonné mercredi soir la libération conditionnelle pour 8 militants des droits de la personne, dont Idil Ezer, directrice d'Amnesty International en Turquie, ainsi qu'un ressortissant allemand et un Suédois. Le tribunal a en revanche demandé le maintien en détention de Taner Kilic, président d'Amnesty International en Turquie. Les accusés sont poursuivis pour activités terroristes dans ce procès qui suscite l'inquiétude de la communauté internationale, et attendu les rapports déjà crispés entre la Turquie et l'Allemagne. Le président Michel Temer a sauvé une nouvelle fois son mandat hier, sans surprise, grâce à un vote de la Chambre des députés qui s'est prononcé contre son renvoi pour un procès devant la Cour suprême pour corruption. Premier président brésilien en exercice jamais mis en accusation, Michel Temer a ainsi sauvé son poste pour la 2e fois en 3 mois. Le chef de l'État avait été accusé par le parquet avec 2 de ses ministres d'obstruction à la justice et de participation à une organisation criminelle. Alors que le vote était toujours en cours en début de soirée à Brasilia, le président de 77 ans brièvement hospitalisé dans la journée pour un problème urologique obtenu les 172 voix nécessaires au blocage de la procédure le visant. Les actualités culturelles, maintenant, les finalistes de l'Académie des lettres. L'Académie des lettres du Québec a dévoilé les finalistes des 4 prix qu'elle remettra le 8 novembre. En poésie, le prix Alain Grandbois est disputé entre Marie-Célie Agnan, « Femme des terres brûlées », c'est le titre de son œuvre, François Turcot, « Le livre blond », et Élise Turcotte, « La forme du jour ». Les dramaturges Sébastien David, « Dimanche, Napalm », Claude Guillemin, « AmericanDream.ca », ainsi que le duo Jean-François Guilbeault, Andréane Joubert pour « Noyade » sont cités pour le prix Marcel Dubé. Pour le prix Ringuet, destiné aux romanciers, les nommés sont Marie-Jeanne Bérard, « Vous n'êtes probablement personne », Christophe Gay-Poliquin, « Le poids de la neige » et Stéphane Larue, « Le plongeur ». Enfin, du côté des essais, le lauréat du prix Victor Barbeau se trouve parmi Yann Hamel, « Le cétacé et le corbeau », Robert Lévesque, « Vie livresque » et Rachel Nadon, « La résistance en héritage ». Il aura fallu 14 éditions du prix Sobey avant que la prestigieuse récompense de 50 000 $ échoie à un artiste de la région Atlantique. Le jury 2017 réuni à Toronto a choisi d'honorer Ursula Johnson de la Nouvelle-Écosse, là où est établie la fondation à l'origine du prix remis depuis 2002. Auteur de performances et d'installations basées sur des processus de collaboration, Ursula Johnson s'interroge sur les notions d'identité, de nation, de territoire. Le jury pan-canadien auquel siégeait Claude Bélanger, directeur de la Manif d'art, récompense une voix forte qui redéfinit les matériaux traditionnels et réimagine les histoires colonisées. Pour une première fois, la finale du Sobey, S-O-B-E-Y, regroupait une majorité de femmes, 4 sur 5, ainsi que plus d'un artiste autochtone. Sur la photo publiée dans Le Devoir, on voit « Clôture à Orignal », c'est le titre de l'œuvre composée de bois d'œuvre, d'une clôture, d'une barrière anti-cervidée et d'éclairage. C'est l'œuvre d'Ursula Johnson qui a été présentée dans le cadre de l'exposition du prix Sobey 2017. L'Oratoire Saint-Joseph renoue dimanche 29 octobre avec ses concerts du dimanche, gratuits, animés et projetés sur écran géant, mettant en vedette le grand orgue Beckerath, 78 jeux et 5811 tuyaux sur 5 claviers, le plus grand orgue entièrement mécanique d'Amérique du Nord. En ouverture de saison, dimanche à 15h30, Cyprès et Laurier et la Symphonie numéro 3 de Saint-Saëns, ainsi que la Symphonie numéro 1 d'Alexandre Guilmant, seront présentés par la Sinfonia de Montréal sous la direction de Louis Lavigueur. À l'orgue, successivement, Jacques Boucher, Jonathan Holdergam et Vincent Boucher. Des adieux déchirants et lumineux, une semaine après sa mort, Gord Downie nous dit « Au revoir de belle façon ». C'est un texte de Cédric Bélanger dans le Journal de Montréal. Je vous en lis un petit bout. À moins d'avoir le pire des cœurs de pierre, on ne peut rester insensible devant les touchants adieux musicaux de Gord Downie sur « Introduce Yourself ». Une semaine après son décès d'un cancer du cerveau, la voix du groupe canadien de Tragically Hip offre un dernier album à la fois intime, poignant, mais aussi lumineux. J'appréhendais, écrit Cédric Bélanger, la découverte d'Introduce Yourself, œuvre testament au même titre que le Black Star de David Bowie et le You Want It Darker de Leonard Cohen, deux albums parus peu de temps après le décès de leur créateur. Malgré leurs indéniables qualités artistiques, il se dégageait de ses ultimes offrandes une sombre lourdeur qui m'a incité à espacer les séances d'écoute. Pas de ça ici. Oui, et surtout, si vous êtes un fan invétéré de Downie et des Hip, vous serez ému plus d'une fois. Je pense à Wolf's Home, dans laquelle la voix chevrotante de Donny semble parfois sur le point de se briser sous le coup de l'émotion. Plus loin, Love Over Money s'adresse directement à ses compagnons et amis des Tragically Hip. The North fait écho à son dernier combat en faveur de la réconciliation avec les Premières Nations. Au Canada anglais, où sa mort a créé une onde de choc, cet album cimentera le statut d'icône nationale de Gord Donny. Alors, point fort de cet album, selon Cédric Bélanger, des textes intimes et poignants, sa vivacité musicale. Point faible, c'est son dernier, malheureusement. Impeccable Lambert Wilson, une critique du spectacle de Lambert Wilson qui chante Yves Montand au TNM, s'est signé Bruno Lapointe. Revisiter l'œuvre et la vie d'Yves Montand en 120 minutes bien tassées était un défi de taille. Mais grâce au charisme et au talent de Lambert Wilson, le spectacle Wilson chante Montand s'élève bien au-delà d'un simple hommage musical. Dans les mains d'un autre artiste, un spectacle rendant hommage au parcours d'Yves Montand aurait pu être, avouons-le, poussiéreux, mais pas avec Lambert Wilson. Le spectacle « Wilson chante Montand » est présenté jusqu'au 5 novembre au TNM. Convaincu que ces spectacles doivent être accessibles au plus grand nombre, l'auteur, compositrice, interprète Samuel a fait traduire en langue des signes québécoises, LSQ, les pièces qu'elle interprétera lors de son prochain concert à Montréal, événement qui sera présenté à la Sala Rossa le 8 novembre. C'est une rencontre marquante avec l'une de ses admiratrices sourdes qui a eu lieu après la présentation d'un concert en juin dernier, qui l'a convaincue de mettre en branle ce projet de traduction. Elle m'a dit que les personnes sourdes et malentendantes aimeraient pouvoir profiter de mes spectacles, a expliqué la musicienne en entrevue. C'est certain qu'on est souvent bloqué par les budgets de production, mais je me suis dit que d'engager une personne pour interpréter, ce n'était pas irréaliste. Et pourquoi ne pas simplement faire défiler les paroles de ces chansons sur un écran durant ces spectacles? On m'a dit que les gens qui ont appris la LSQ ne savent pas toujours lire et écrire le français, a expliqué l'artiste. Il y a donc quelque chose de plus inclusif dans le fait qu'il y ait quelqu'un qui traduise avec des gestes à nos côtés sur scène. Changer l'heure pour ou contre, une lectrice m'a écrit pour me poser la question suivante. Bonjour, Monsieur Graton, c'est dans le droit sous la plume de Denis Graton, vous l'aurez sûrement deviné. J'ai demandé à Google quand il fallait changer l'heure. Comme réponse, j'ai obtenu le 29 octobre 2017. Je suis pourtant certaine que c'est le 5 novembre. Est-ce que je suis correcte? Avant de vous répondre, chère lectrice, j'ai à mon tour une question pour vous. Si vous êtes certaine qu'on recule l'heure le 5 novembre prochain, pourquoi êtes-vous allé vérifier sur Google? Mais bon, j'en conclus que vous n'étiez pas si certaine que vous l'affirmiez. Et pourtant, vous avez raison, c'est bien le 5 novembre 2017 que l'on revient à l'heure normale ou à l'heure d'hiver, si vous préférez. Alors pourquoi Google a-t-il répondu le 29 octobre 2017? Parce que ce moteur de recherche vous a probablement dirigé vers un site web français ou européen et les dates de changement d'heure du printemps et de l'automne diffèrent en Europe et en Amérique du Nord. En Europe, le changement d'heure de l'automne a lieu le dernier week-end d'octobre. Mais depuis 2007, le Québec, l'Ontario ainsi que toutes les autres provinces canadiennes, sauf la Saskatchewan, se sont alignées sur les États-Unis, prolongeant ainsi d'un mois la période de l'heure avancée d'été, qui débute 3 semaines plus tôt au printemps et se termine 1 semaine plus tard en automne. Tout ça pour dire qu'on devra reculer nos montres pour ceux et celles qui portent encore une montre dans la nuit du 4 au 5 novembre. Ça répond à votre question, ma chère lectrice? De rien. Ceci étant dit, je déteste reculer l'heure, je déteste la noirceur à 16h30 en plein après-midi et je déteste le fait que les mots « reculer l'heure » soient synonymes des mots « froid »,« hiver »,« neige »,« refroidissement », »,« éolien », »,« tempête hivernale »,« chaussée glissante »,« gratte en plastique »,« mitaine »,« foulard »,« grippe »,« déneigeuse » et je pourrais continuer. C'est à tout ça que je pense quand j'entends les mots « reculer l'heure ». Et je ne suis pas le seul. Une pétition signée par plus de 8200 personnes a d'ailleurs été déposée à l'Assemblée nationale du Québec en 2013 afin d'abolir le changement d'heure. Cette pétition n'a évidemment pas porté fruit, mais c'est tout de même un signe assez clair qu'il y a un paquet de monde qui grince des dents quand vient le temps de modifier le temps. J'ai trouvé un texte sur le site web de Météo Média dans lequel on énumère les pour et les contre du changement d'heure. On y soulève 2 pour et 4 contre. Chez les pour, 1. L'heure normale, ou l'heure d'hiver entre parenthèses, augmente la clarté le matin. Transport, sécurité. Bon point. 2. Toujours pour les pour, l'heure d'été ou l'heure avancée permettrait des économies d'énergie. Je n'en suis pas convaincue. On économise peut-être l'énergie le soir venu, l'été, puisque le soleil ne se couche pas avant 21 heures. Mais il nous en faut davantage le matin alors que le soleil se lève plus tard. Et en général, on utilise plus d'énergie le matin jusqu'à 20 heures le soir. Mais je sais qu'on pourrait longuement débattre cette question. Passons donc au contre le changement d'heure. Les changements d'heure peuvent provoquer des troubles de sommeil temporaires. Certaines études avancent même qu'ils favoriseraient la dépression en automne et des risques d'infarctus lors du passage à l'heure avancée. Ils favoriseraient la dépression en automne, dit-on, voire paragraphe si haut qui débute avec les mots « je déteste reculer l'heure ». Écrit Denis Graton toujours. De nombreux agriculteurs soutiennent que le bétail s'adapterait difficilement au changement d'heure, ce qui provoquerait une baisse de rendement et de la production. Même les vaches sont contre les changements d'heure. Ils les font meugler de rage. Les changements d'heure perturberaient la prise de médicaments de certains patients. Les changements d'heure seraient nuisibles aux enfants qui arrivent mal à gérer cette perturbation 2 fois par année, ce qui a évidemment des conséquences pour les parents. Alors voilà, 4 arguments contre cette pratique et 2 arguments pour. En fait, la seule bonne chose selon moi dans ces changements d'heure, c'est l'immense joie que je ressens dans la nuit du samedi au dimanche de mars, quand vient le temps d'avancer l'heure. Parce que les mots « avancer l'heure » sont synonymes des mots « printemps »,« été »,« chaleur »,« golf »,« chalet »,« vacances ». Je ne voudrais pas perdre ce merveilleux moment annuel. Donc, à bien y penser, oubliez tout ça. Gardons les changements d'heure et apprenons, nous, les hivers phobes, à vivre avec nos dépressions automnales. Et au diable, ce qu'en pensent les vaches. Dans la tribune, sous la plume de Claude Plante, Canac, le chien du SPS, en vedette dans un calendrier. Pour une 2e année consécutive, il sera possible de suivre les journées de l'année en étant accompagné de photographies de l'adorable chien Canac du service de police de Sherbrooke, SPS. Le SPS vient de mettre en vente son calendrier à l'image du premier chien policier de soutien émotionnel au Québec. Les calendriers sont disponibles au coût de 10 $ dans différents points de vente de la région sherbrookoise. Les profits seront remis à la Fondation Mira, qui pourra continuer à entraîner d'autres chiens qui pourront offrir le réconfort à d'autres personnes dans le besoin à travers le Québec. L'an dernier, on avait vendu 450 copies du calendrier du chien au calme exemplaire, note Mélanie Bédard, sergent détective et policière maître chien. Nous en avons fait imprimer 500 cette année, dit-elle. Il n'y a pas beaucoup de corps policiers qui ont leur calendrier de chien. Nous savons que le service de police de Laval et la GRC dans l'Ouest canadien en vendent. Rappelons que le SPS est la première organisation policière au Québec à utiliser les services d'un chien de soutien pour appuyer ses enquêteurs lors d'entrevues avec de jeunes victimes abusées physiquement ou sexuellement ou pour ceux qui ont vécu un drame. Et dans le quotidien, Jonathan Hudon, des anciens Saguenayens inspirent des cocktails pure vodka. Les Saguenayens et pure vodka annoncent un partenariat qui permet de faire un clin d'œil à ce qui caractérise l'équipe de hockey junior majeur. 4 cocktails exclusifs sont créés pour souligner les 45 ans d'histoire des Sags et du même coup celle de pure vodka. Dans chaque cocktail spécialement créé pour les Bleus, on remémore un passage marquant de l'organisation ou encore de la ville qui l'a chérie depuis 1973. Le David contre Goliath en l'honneur de David Desharnais, le Vizina en l'honneur du concombre de Chicoutimi, Georges Vizina, le Blanchissage pour souligner le record de concessions établi par Félix Potvin lors de la saison 90-91 pour le plus grand nombre de blanchissages en une saison avec 6, et finalement le 7-8-8-2 qui rappelle l'uniforme porté par les Saguenayens pendant ces 5 saisons, à une époque où Guy Carbonneau évoluait avec l'équipe. C'est tout pour les voies de service quotidien. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable journée. Je vous retrouve dans quelques minutes avec l'émission Les Paractualités si vous nous écoutez en direct. Bonne journée. Merci Mathieu Tessier à la revue musicale ou au choix musical. C'est plus juste de dire cela ainsi. Et aussi à la mise en onde. À bientôt.